Victor Hugo, Les Châtiments. L'expiation. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'après-hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant, troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait des clairons à leur poste gelés, restés debout, en selle, et muets, blancs de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitrailles, obus, mêlés aux flocons blancs, pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait sur le verglas dans des lieux inconnus. On n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'était plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume. Un mystère, une procession d'ombres sous le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit, avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se sentant mourir, on était seul. Sortira-t-on jamais de ce funeste empire ? Deux ennemis, le tsar, le nord. Le nord est pire. On jetait les canons pour brûler les affûts. Qui se couchait, mourait. Groupe morne et confus, il fuyait. Le désert dévorait le cortège. On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, voir que des régiments s'étaient endormis là. Ô chute d'Hannibal, lendemain d'Attila. Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières, on s'écrasait au pont pour passer les rivières. On s'endormait 10 000, on se réveillait 100. Ney, que suivait naguère une armée, à présent, s'évadait, disputant sa montre à 3 cosaques. Toutes les nuits, qui vivent, alerte, assauts, attaques, ces fantômes prenaient leurs fusils. Et sur eux, ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux, avec des cris pareils aux voix des vautours chauves, d'horribles escadrons. Tourbillon d'hommes fauves. Toute une armée ainsi, dans la nuit, se perdait. L'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant grandeur, jusqu'alors épargné, le malheur, bûcheron sinistre, était monté. Et lui, chêne vivant, par la hache insulté, tressaillant sous le spectre, aux lugubres revanches, il regardait tomber autour de lui ses branches. Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour. Tandis qu'environnant sa tente avec amour, voyant son ombre aller et venir sur la toile, ceux qui restaient croyant toujours à son étoile accusaient le destin de lèse majesté. Lui se sentit soudain dans l'âme épouvantée. Stupéfait du désastre et ne sachant que croire, l'empereur se tourna vers Dieu. L'homme de gloire trembla. Napoléon comprit qu'il expiait. Quelque chose, peut-être. Et livide, inquiet, devant ses légions sur la neige semée, « Est-ce le châtiment ? » dit-il. « Dieu des armées ?» Alors il s'entendit appeler par son nom, et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit non. Waterloo. Waterloo, Waterloo, morne pleine, comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc sanglant, des héros, Dieu trompait l'espérance. Tu désertais victoire, et le sort était là. Ô Waterloo, je pleure, et je m'arrête, hélas. Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin. et leur âme chantait dans les clairons d'airain. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat. Point obscur où tressaille la mêlée, effroyable et vivante broussaille. Et parfois l'horizon, sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit « Grouchy !» C'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés, ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge, qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, tombaient. Où se couchaient, comme des épis mûrs, les hauts tambours majors, aux panaches énormes. Où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux. Moment fatal, l'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites donner la garde » cria-t-il. Et lanciers, grenadiers aux guêtres de Courtil, dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers, qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur dieu, debout dans la tempête. Leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'empereur !» Puis à pas lents, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriante à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Hélas, Napoléon, sur sa garde penchée, regardait. Et sitôt qu'ils avaient débouché, sous les sombres canons crachant des jets de soufre, voyait l'un après l'autre, en cet horrible gouffre, fondre ses régiments de granit et d'acier, comme fond une cire au souffle d'un brasier. Ils allaient, l'arme au bras, front haut, grave, stoïque. Pas un ne recula. Dormaient morts héroïques. Le reste de l'armée hésitait sur leur corps et regardait mourir la garde. C'est alors qu'élevant tout à coup sa voix désespérée, la déroute, géante à la face effarée, qui pâle, épouvantant les plus fiers bataillons, changeant subitement les drapeaux en haillons, à de certains moments, spectre fait de fumée, se lève grandissante au milieu des armées. La déroute apparut au soldat qui s'émeut et se tordant les bras cria « Sauve qui peut !» Sauve qui peut, affront, horreur, toutes les bouches criaient, à travers champs fous et perdus, farouches, comme si quelque souffle avait passé sur eux. Parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux, roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles, jetant shako, manteau, fusil, jetant les aigles, sous les sabres prussiens, ces vétérans, au deuil, tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient, en un clin d'œil, comme s'envole au vent une paille enflammée, s'évanouit ce bruit qui fut la grande armée. Et cette plaine, hélas, où l'on rêve aujourd'hui, vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui. 40 ans sont passés, et ce coin de la terre, Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire, ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néant, tremble encore d'avoir vu la fuite des géants. Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve. Hommes, chevaux, tambours, drapeaux, et dans l'épreuve, sentant confusément revenir son remords, levant les mains au ciel, il dit « Mes soldats morts, moi vaincu, mon empire est brisé comme verre. Est-ce le châtiment, cette fois, Dieu sévère ?» Alors, parmi les cris, les rumeurs, le canon, il entendit la voix qui lui répondait non. Il croula. Dieu changea la chaîne de l'Europe. Il est au fond des mers que la brume enveloppe un roc hideux, débris des antiques volcans. Le destin prit des clous, un marteau, des carcans, saisi pâle et vivant ce voleur de tonnerre, et joyeux s'en alla sur le pic centenaire le clouer, excitant par son rire moqueur le vautour Angleterre à lui ronger le cœur. Évanouissement d'une splendeur immense, du soleil qui se lève à la nuit qui commence, toujours l'isolement, l'abandon, la prison. Un soldat rouge au seuil, la mer à l'horizon, des rochers nus, des bois affreux, l'ennui, l'espace, des voiles s'enfuyant comme l'espoir qui passe, toujours le bruit des flots, toujours le bruit des vents. Adieu, tente de pourpre, au panache mouvant, adieu le cheval blanc que César éperonne. Plus de tambours battants au champ, plus de couronnes, plus de rois prosternés dans l'ombre avec terreur, plus de manteaux traînant sur eux, plus d'empereurs. Napoléon était retombé Bonaparte, comme un Romain blessé par la flèche du Parthe, saignant, morne, il songeait à Moscou qui brûla. Un caporal anglais lui disait « Halte là !» Son fils aux mains des rois, sa femme aux bras d'un autre. Plus vil que le pourceau qui dans l'égout se vautre, son sénat qui l'avait adoré l'insultait. Au bord des mers, à l'heure où la brise se tait, sous les escarpements croulant en noir décombre, il marchait, seul, rêveur, captif des vagues sombres. Sur les monts, sur les flots, sur les cieux tristes et fiers, l'œil encore ébloui des batailles d'hier, il laissait sa pensée errer à l'aventure. Grandeur, gloire, ô néant, calme de la nature. Les aigles qui passaient ne le connaissaient pas. Les rois, ses guichetiers, avaient pris un compas et l'avaient enfermé dans un cercle inflexible. Il expirait. La mort, de plus en plus visible, se levait dans sa nuit et croissait à ses yeux, comme le froid matin d'un jour mystérieux. Son âme palpitait, déjà presque échappée. Un jour, enfin, il mit sur son lit son épée et se coucha près d'elle et dit « C'est aujourd'hui ». On jeta le manteau de Marengo sur lui. Ses batailles du Nil, du Danube, du Tibre, se penchaient sur son front. Il dit « Me voici libre, je suis vainqueur, je vois mes aigles accourir ». Et comme il retournait sa tête pour mourir, il aperçut un pied dans la maison déserte. Hudson Lowe guettant par la porte entrouverte. Alors, géant broyé sous le talon des rois, il cria « La mesure est comble cette fois ! Seigneur, c'est maintenant fini ! Dieu que j'implore, vous m'avez châtié ?» La voix dit « Pas encore !» Ô noirs événements, vous fuyez dans la nuit. L'empereur mort tomba sur l'empire détruit. Napoléon alla s'endormir sous le saule. Et les peuples alors, de l'un à l'autre pôle, oubliant le tyran, s'éprirent du héros. Les poètes marquant au front les rois bourreaux consolèrent pensifs cette gloire abattue. À la colonne veuve on rendit sa statue. Quand on levait les yeux, on le voyait debout, au-dessus de Paris, serein, dominant tout. Seul le jour dans l'azur et la nuit dans les astres. Panthéon, on grava son nom sur vos pilastres. On ne regarda plus qu'un seul côté du temps. On ne se souvint plus que des jours éclatants. Cet homme étrange avait, comme enivré l'histoire, la justice à l'œil froid, disparu sous sa gloire. On ne vit plus qu'Essling, Ulm, Arcole, Austerlitz. Comme dans les tombeaux des Romains abolis, on se mit à fouiller dans ces grandes années. Et vous applaudissiez, nations inclinées, chaque fois qu'on tirait de ce sol souverain ou le consul de marbre ou l'empereur des reins. Le nom grandit quand l'homme tombe. Jamais rien de tel n'avait lui. Calme, il écoutait dans sa tombe la terre qui parlait de lui. La terre disait « La victoire a suivi cet homme en tout lieu. Jamais tu n'as vu sombre histoire un passant plus prodigieux. Gloire au maître qui dort sous l'herbe. Gloire à ce grand audacieux. Nous l'avons vu gravir, superbe, les premiers échelons des cieux. Il envoyait, âme acharnée, prenant Moscou, prenant Madrid, lutter contre sa destinée, tous les rêves de son esprit. À chaque instant, rentrant en lice, cet homme au gigantesque pas proposait quelques grands caprices à Dieu qui n'y consentait pas. Il n'était presque plus un homme. Il disait, grave et rayonnant, en regardant fixement Rome, « C'est moi qui règne maintenant !» Il voulait, héros et symbole, pontife et roi, phare et volcan, faire du Louvre un Capitole et de Saint-Cloud un Vatican. César, il eût dit à Pompée, « Sois fier d'être mon lieutenant. » On voyait luire son épée au fond d'un nuage tonnant. Il voulait, dans les frénésies de ses vastes ambitions, faire devant ses fantaisies agenouiller les nations. Ainsi qu'en une urne profonde, mêler races, langues, esprits, répandre Paris sur le monde, enfermer le monde en Paris. Comme Cyrus dans Babylone, il voulait sous sa large main ne faire du monde qu'un trône et qu'un peuple du genre humain. Et bâtir, malgré les huées, un tel empire sous son nom que Jéhovah dans les nuées fut jaloux de Napoléon. Enfin, mort triomphant, il vit sa délivrance et l'océan rendit son cercueil à la France. L'homme, depuis 12 ans, sous le dôme doré, reposait par l'exil et par la mort sacrée. En paix. Quand on passait près du monument sombre, on se le figurait couronné au front, dans l'ombre, dans son manteau semé d'abeilles d'or, muet, couché sous cette voûte où rien ne remuait. Lui, l'homme qui trouvait la terre trop étroite, le sceptre en sa main gauche, et l'épée en sa droite. À ses pieds son grand aigle, ouvrant l'œil à demi. Et l'on disait, c'est là qu'est César endormi. Laissant dans la clarté marcher l'immense ville, il dormait confiant et tranquille. Une nuit, c'est toujours la nuit dans le tombeau, il s'éveilla, luisant comme un hideux flambeau. D'étranges visions emplissaient sa paupière. Des rires éclataient sous son plafond de pierre. Livide, il se dressa, sa vision grandit. Ô terreur, une voix qu'il reconnut lui dit « Réveille-toi, Moscou, Waterloo, Sainte-Hélène, l'exil, les rois geôliers, l'Angleterre et Hautaine, sur ton lit accoudé à ton dernier moment. Sire, cela n'est rien. Voici le châtiment. » La voix alors devint âpre, amère, stridente, comme le noir sarcasme et l'ironie ardente. C'était le rire amer mordant un demi-dieu. Sire, on t'a retiré de ton panthéon bleu, sire, on t'a descendu de ta haute colonne. Regarde, des brigands dont les seins tourbillonnent, d'affreux bohémiens, des vainqueurs de charniers, te tiennent dans leurs mains et t'ont fait prisonnier. À ton orteil et les reins, leurs pattes infâmes touchent. Ils t'ont pris. Tu mourus comme un astre se couche, Napoléon le Grand, empereur. Tu renais, Bonaparte, écuyer du cirque Beauharnais. Te voilà dans leur rang, on t'a, on te harnache. Ils t'appellent tout haut grand homme, entre eux, ganache. Ils traînent sur Paris qui les voit s'étaler, des sabres qu'au besoin ils sauraient avaler. Aux passants attroupés, devant leur habitacle, ils disent, entends-les, empire à grand spectacle. Le pape est engagé dans la troupe, c'est bien. Nous avons mieux, le tsar en est. Mais ce n'est rien. Le tsar n'est qu'un sergent. Le pape n'est qu'un bonze. Nous avons avec nous le bonhomme de bronze. Nous sommes les neveux du grand Napoléon. Et fous, magnans, roués, parieux, caméléons font rage. Ils vont montrant au sénat d'automates. Ils ont pris de la paille au fond des casemates pour empailler ton aigle, ô vainqueur d'Iéna. Il est là, mort gisant, lui qui si haut plana. Et du champ de bataille, il tombe au champ de foire. Sire, de ton vieux trône, ils recousent la moire. Ayant dévalisé la France au coin d'un bois, ils ont à leur haillon du sang, comme tu vois. Et dans son bénitier, Cibourg lave leur linge. Toi, lion, tu les suis. Leur maître, c'est le singe. Ton nom leur sert de lit, Napoléon Ier. On voit sur Austerlitz un peu de leur fumier. Ta gloire est un gros vin dont leur honte se grise. Cartouche, essai et mets, ta redingote grise. On quête des liards dans le petit chapeau. Pour tapis, sur la table, ils ont mis ton drapeau. À cette table immonde où le grec devient riche, avec le paysan, on boit, on joue, on triche. Tu te mêles, compère, à ce tripot hardi. Et ta main qui tenait l'étendard de Lodi, cette main qui portait la foudre, ô Bonaparte, aide à piper les dés et fait sauter les cartes. Ils te forcent à boire avec eux, et Carlier pousse amicalement d'un coup de familier votre majesté, sire, et piétrie dans son antre, vous tutoie, et Maupas vous tape sur le ventre. Faussaire, meurtrier, escroc, forban, voleur, ils savent qu'ils auront, comme toi, des malheurs. Leur soif, en attendant, vit de la coupe pleine. À ta santé. Poissy trinque avec Sainte-Hélène. Regarde, bal, sabbat, fête matin et soir. La foule, au bruit qu'ils font, se culbute pour voir, debout sur le tréteau, cassaille une cohue, qui rit, baille, applaudit, tempête, siffle, hue, entouré de pasquins agitant leurs grelots, commencer par Homère et finir par Callot. Épopée, épopée, oh quel dernier chapitre! Entre trop long paillasse et chédeste ange pitre, devant cette baraque, abjecte et vil bazar, où mandrin mal lavé se déguise en César, riant l'affreux bandit dans sa moustache épaisse, toi, spectre impérial, tu bats la grosse caisse. L'horrible vision s'éteignit. L'empereur, désespéré, poussant dans l'ombre un cri d'horreur, baissa les yeux, dressant ses mains épouvantées. Les victoires de marbre, à la porte sculptée, fantômes blancs debout, hors du sépulcre obscur, se faisaient du doigt signe, et s'appuyant au mur, écoutaient le titan pleurer dans les ténèbres. Et lui cria, « Démon, aux visions funèbres, toi qui me suis partout, que jamais je ne vois, qui es-tu ?»« Je suis ton crime, » dit la voix. La tombe alors s'emplit d'une lumière étrange, semblable à la clarté de Dieu quand il se venge. Pareils aux mots que vit resplendir Balthazar, deux mots dans l'ombre écrits, flamboyaient sur César. Bonaparte, tremblant comme un enfant sans mère, leva sa face pâle et lut 18 Brumaire.